On va parler avec notre ami François Paquette, le Denis Cazavant. Je l'ai comparé à Denis Cazavant l'autre jour. Salut François.
Salut Denis, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Pas mal, effectivement, c'est une belle comparaison, je trouve. Moi, je trouvais ça bon. Tu parles de hockey, tu es capable de parler. Tu es capable de parler de baseball. Tu es capable de parler de basket. Tu es capable de parler de NFL comme Denis Cazavant. Il y a juste la cliquette que je t'ai pas, puis la pétanque que je t'ai pas encore demandé ton opinion, là.
Non, je te dis que c'est un très beau compliment parce que ça reste, je pense, le roi et maître de la polyvalence dans le monde du sport, c'est Denis Cazavant. Puis, tu sais, des fois, quand tu. Il y a des gens que tu admires leur travail, des fois, quand tu les rencontres, espère juste qu'ils soient des gens agréables à côtoyer. Puis là-dessus, je peux te dire que c'est A+, parce que j'ai travaillé une couple de fois avec Denis Cazavant. C'est vraiment un chic. C'est un gars fantastique. Puis, ce qui est encore plus incroyable du fait qu'il peut faire tous les sports, c'est qu'il peut le faire dans les deux langues.
Ah, oui,
il a travaillé longtemps à TSN 690, le show du matin. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. Là, je pense comme bien des gens se débrouillent en anglais, mais de travailler en français et en anglais, c'est fantastique. Puis je peux te confirmer que c'est un très bon gars.
Bon, fait que c'est bien. Hey, ce matin, pour moi, c'est la nouvelle. Ça dérange pas grand Québécois, mais moi, ça me fait rire un peu. Là, j'ai trouvé ça drôle. Le match de l'Impact a été annulé, a été remis à ce soir en raison de la neige. Pourtant, il y avait un toit, il y a un toit au Stade Olympique. La toile, ça fait depuis 2013 qu'on dit qu'elle va être remplacée. Puis ça traîne encore. Fait que c'est devenu une joke. C'est devenu une vraie joke. Personne, moi, ce qui me fascine, c'est que ça. Comme je me doutais bien, ça n'a pas dérangé grand monde, sauf que quelle image que ça donne encore une fois à Montréal et à Montréal et au Québec, là. Un match de soccer reporté parce qu'il neige, mais il y a un toit sur le stade.
Mais c'est, écoute, depuis quoi, fin des années 90, en fait, je te dirais que même que l'histoire d'amour n'a jamais eu lieu là, entre le stade olympique et les amateurs de baseball, parce que le stade avait été fait pour deux semaines d'Olympisme, mais non pas pour un club de baseball qui jouait là à l'année. Fait que ça a comme pas fonctionné dès le départ. Puis là, je me demandais dans les dernières années si le projet du nouveau stade à Montréal allait peut-être changer quelque chose pour l'avenir du stade olympique. Parce que moi, je suis encore fasciné de voir, de un, qu'on met de l'argent là-dedans, et de deux, que certaines personnes pensaient que le stade olympique aurait pu faire l'affaire pour un club de baseball qui si ce club-là était revenu à Montréal. Voilà. Je veux dire, le stade est dépassé depuis 20-25 ans. Ça nous a coûté une fortune. L'histoire de la toile, ça a été une catastrophe. Puis je pense qu'on va s'en servir une fois de temps en temps pour des événements, mais j'espère qu'on mettra pas trop d'argent là-dedans parce que c'est vraiment. C'est pas une risée, là, disons qu'on n'a pas très, très bien paru dans ce pari-là de construire le stade olympique.
Ben regarde, puis c'est pas juste ça non plus. Tu sais, il y a des stades. Écoute, tous les stades qui ont été construits dans ces années-là, 10 à 15 ans à peu près de différence. Là, tu sais, le Silver Dome, le Astrodome, le King Dome. Tu sais, il y avait une mode dans les années 70 que tu avais un toit. Tu te rappelles, un toit rétractable, puis tout ça.
Ouais.
Et ils ont tous été. Ils ont tous. Ils n'existent tout simplement plus. Il n'y a plus un qui existe. Et ceux-là qui ont été bâtis ont été rénovés à 100%. En exemple, le BC Place à Vancouver, c'est pas mal dans la même année que le Stade Olympique. Et été renouvelé. Là. Il ne reste plus rien que le nom. Là. C'est tout a été changé. Là. C'est ça qui est fascinant. Hey, c'est tellement fini, Jérémy, que François, que Jérémy Filosa disait l'autre fois, 98.5, que si y a un globe qui brûle dans l'éclairage, le globe ne se fait plus.
Ça, je l'avais pas entendu.
Ouais.
Fait que, mais c'est un peu. Tu sais, puis juste pour compléter sur les dômes, c'est que tu as déjà vu au MLB Network qui passe le documentaire sur la 8e merveille du monde, qui était l'Astrodome. Puis comment, tu sais, à la base, c'était fascinant, là, parce que les gens n'avaient jamais vu un stade couvert avec surtout du gazon artificiel. Puis la plupart des joueurs détestaient ça. Mais comme tu as mentionné, par la suite, c'est devenu une mode, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les stades circulaires ne sont plus très populaires, ni le gazon synthétique comme on connaissait à l'époque, mais les toits rétractables. Puis moi, c'est toujours ça, j'en revenais toujours à ça, que si on voulait construire un stade à Montréal, ça prenait un toit rétractable, tu sais, que tu peux ouvrir ou fermer en dedans de quelques minutes. Mais on dirait que les gens comprenaient pas que ça pouvait très bien fonctionner, que tu sais, le stade olympique, ça avait été une gaffe, ça a été mal organisé, puis depuis le départ, ça a été compliqué avec la toile. Mais tu sais, des vrais stades de baseball avec des toits rétractables, c'est fantastique parce que peu importe la température, tu vas avoir ton événement. Pas juste du baseball, là, peu importe l'événement, puis tu peux t'en servir à l'année longue aussi. Mais je pense qu'on... Je sais pas jusqu'où on se serait rendu dans ce dossier-là du nouveau stade, puis qu'il soit rétractable, mais il va falloir se contenter, semble-t-il, du stade olympique pour certains gros événements.
Mais une ville majeure en Amérique... Tu dis une ville majeure en Amérique du Nord, François, n'a même pas de stade majeur, le stade moderne. T'sais, ça fait dur.
Il y en auront pas non plus. Il n'y a aucune raison. Voilà. C'est pas un club de la MLS qui va te permettre de construire un nouveau stade. Il n'y a pas de rapport de retour du baseball. Fait que je pense qu'à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le stade olympique? Puis est-ce que ça vaut la peine de continuer de mettre autant d'argent là-dedans? Ça, c'est la grande question à se poser.
En tout cas, fait que c'est très, très, très décevant ce qui se passe avec le stade olympique. Parler du Canadien, Martin Saint-Louis, ça te surprend-tu? L'énergie du nouveau coach, c'est sûr que... l'énergie du nouveau coach est arrivée. Il y a des joueurs quand même transformés. Il y a des joueurs qui jouaient pas la mesure de son potentiel. Jeff Petrie en est un. Jeff Petrie qui semble un joueur transformé depuis son arrivée de Martin Saint-Louis. Soit ils l'ont fait comprendre que tu veux être échangé, il faut que tu joues mieux que ça aussi. Cole Caulfield joue bien. J'ai hâte de voir la durée que ça va prendre aussi. C'est sûr qu'à prime abord, c'est pas un club de 32e place. C'était pas un club pour gagner la Coupe Stanley, mais c'est pas un club de 32e place non plus. Là. Faut quand même pas.
Non.
Hein?
Je suis d'accord avec toi parce que, mais d'un, je suis très surpris, agréablement surpris par Martin Saint-Louis. Ouais. Je pense qu'on se l'était dit. Moi, je n'étais pas un grand fan de Martin Saint-Louis. Pas le joueur, mais disons que le contact avec les médias a toujours été difficile durant sa carrière. C'était pas un gars qui était très agréable. Mais quand il s'est présenté au point de presse, je trouve qu'il a fait une présentation fantastique, tu sais, dans les deux langues, comment se présenter, qu'est-ce qu'il voyait. Il faut admettre que, de un, les résultats sont surprenants. Deux, le spectacle est de meilleure qualité. Ça, c'est une autre chose. Mais je pense qu'à moins d'une catastrophe, il va être là l'année prochaine qu'on va lui donner un vrai contrat. La question est de savoir, tu sais, moi, ce qui m'inquiète un peu quand je vois le Canadien gagner quelques matchs comme ça, c'est de voir est-ce que la philosophie va changer. Mais là, tu sais, tu as déjà échangé Tyler Toffoli. Moi, je continue de croire que c'est une reconstruction et non pas juste un reset qu'on a besoin. Là, ben, on utilise toujours le bon vieux terme québécois, le patchage. Ouais. Parce que Sherrod va partir, Petrie va partir, puis tu vas être un club en reconstruction. Tant qu'à y aller, il faut que tu continues d'échanger les pièces. Je pense que les gens vont très bien comprendre si le Canadien a une, deux, trois saisons très difficiles. Mais je suis impressionné quand même de ce que j'ai vu dans les trois derniers matchs. Le fait que tout le monde veut s'assurer de... Tu te dis, écoute, si je suis encore à Montréal l'an prochain, il faut que je gagne mes minutes. Puis tout le monde joue le meilleur hockey ou à peu près. Puis ça, sans gardien numéro un, ça aussi, il faut le dire.
Mais
Montembeau
ne fait pas de mauvaise. Je te dis pas que c'est un gardien de but numéro un. Faut quand même pas. Mais je pense que Montembeau a prouvé qu'il peut être un gardien. Tu es en train de prouver qu'il peut être un gardien de but numéro deux, par contre.
Ah, oh, mais jamais plus que numéro deux, par exemple. Parce que tu sais, il y a eu des bons moments, mais il y a eu des moments difficiles. Puis j'ai regardé les statistiques un petit peu plus tôt aujourd'hui. Puis je pense que Montembeau était à 8,98 de pourcentage d'efficacité, ce qui n'est évidemment pas assez, même pour un gardien. Mais il y a certains soirs, puis je suis d'accord avec toi, qu'il a été le meilleur joueur du Canadien. Puis il revient dans la conversation pour se dire, est-ce que ça vaut la peine de payer Jake Allen, disons, 4 millions, puis d'avoir un gardien de but qui va gauler 20-25 matchs. Tu peux peut-être en avoir un beaucoup moins dispendieux qui va t'en donner presque autant. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de voir parce que Carey Price doit vendredi donner un point de presse pour la suite des événements. Je pense que la plupart des gens semblent dire qu'il veut revenir au jeu quand même cette saison pour tester son genou. Mais ça va peut-être aussi avoir un impact justement sur Allen, Montembeau, Hammond, puis toute la gang de gardiens de but qu'on a vu passer.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, tu sais, Ben Bishop, c'est à peu près la même histoire. Tokaras, c'est à peu près la même histoire aussi. Tu sais, il y a une historique de gardiens de but, puis il ne rajeunit pas Price, là.
Non. Mais c'est sûr qu'il ne prend pas sa retraite parce que financièrement, ce serait pas payant pour lui. Là. Moi, là, ce que j'ai vu, je pense que c'est Pierre Lebrun de TSN qui disait que ce qu'on entend partout, c'est que Price veut se donner une chance de revenir cette année. Évidemment, le Canadien ne fera pas les séries. Price ne sera pas échangé parce qu'il n'y a aucune valeur tant qu'il n'a pas joué. Alors, s'il peut jouer, prouver qu'il est en santé, c'est peut-être cet été que ça pourrait se passer. Ou, tu sais, qu'il arrive l'année prochaine pour prouver qu'il est en santé puis qu'il augmente sa valeur. Mais c'est sûr que là, ça devient complexe. Si le gars ne joue pas cette année, avec le contrat qu'il y a et le nombre d'années qui restent, ça va être pas mal difficile de se débarrasser de ce contrat-là.
OK. On va parler maintenant de baseball là, ce matin avant de rentrer en onde. Tu dis, j'ai hâte que ça bouge un peu. Ça bouge pas tant que ça. En tout cas, là, d'après moi, faut commencer à penser qu'il n'y aura pas de C'est le 1er mars, je pense. C'est quand même le 1er mars qui est vraiment la date butoir pour vraiment savoir s'il y aura une saison de 162 matchs, parce que quoi, ça ne presse pas encore, mais il faudrait qu'ils s'informeraient pour avoir un blitz de négociation. Puis on dit on rentre pas, on sort pas tant on sait qu'on n'a pas d'entente. J'ai hâte que ça arrive, cette affaire-là.
Oh, j'ai hâte que ça bouge, parce que là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que là, on va se parler pour une troisième journée de suite, ce qui est déjà une très, très bonne nouvelle. On dit que le ton est beaucoup plus cordial, mais dans les deux dernières journées, écoute, on n'a même pas avancé, on a presque reculé un point. Puis je commence, tu sais, puis au début, j'étais pas mal dans le milieu de l'histoire, mais je commence à trouver que les joueurs sont très, 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 très gourmands. Puis je reviens toujours à la même chose avec Max Scherzer autour de la table qui, à 38 ans, signe un contrat de 130 millions pour 3 ans.
Moi, ce qui me fascine, c'est que tu rentres dans le baseball majeur, tu as 600 000 $ et tu as le baseball mineur qui, là, c'est un petit peu mieux. On en a parlé, François, j'en parle avec Mark Griffin, j'en parle avec Roger aussi. C'est les joueurs des ligues mineures. Là, ce qui est le fun, au moins, c'est qu'ils vont avoir le salaire. Là. Ça, c'est déjà c'est quand même pas un salaire, mais ils vont payer le loyer. C'est quand même pas pire. Mais tu sais, c'est pas normal que des joueurs de baseball mineur soient 3-4, tandis qu'en haut, ça monte. Moi, c'est ça qui me fascine.
Oh, oui, puis je sais pas, on dirait qu'on veut ce qu'on veut, surtout chez les joueurs, c'est que les joueurs de première, deuxième année qui n'ont pas droit à l'arbitrage, mais qui performent très bien, puissent obtenir une espèce de bonus parce que ils performent et ils ont juste le salaire minimum. Mais on veut aussi le salaire minimum. Sauf erreur, je pense que c'était de 600 à 750 000. C'est plein de petits détails pour partager la tarte de l'argent. Mais là, à un moment donné, ça fait deux fois que les propriétaires offrent la médiation pour dire, écoute, c'est un peu comme un divorce. On va amener un médiateur puis on va essayer de la poire en deux, mais les joueurs veulent pas. Il y a quelques gros égos autour de la table, là, quelques avocats de l'association des joueurs qui ont l'air d'être là plus pour gagner leur cause que pour aider la cause du baseball. Puis, tu sais, même Fred l'a dit, le commissaire, si on rate ou on annule des matchs, ça va être catastrophique pour le baseball. Et quand j'ai hâte, il nous reste à peu près une semaine pour dire on donne un coup. Si on voit que, tu sais, 1er, 2 mars, on commence à avoir de l'élan, puis on s'en va dans la bonne direction, on va s'arranger. Mais si au 1er ou 2 mars, on est au même stade qu'aujourd'hui, c'est certain qu'il va falloir couper à quelque part.
Ben, c'est clair. Là, parce que quoi que. C'est parce qu'on dit qu'en entraînement, il y a moins 2 semaines de trop. Ça, on l'a souvent dit, ça, là, qu'il y a moins 2 semaines de trop. Mais là, je pense qu'il faut agir. Mais tu sais, tu parlais que ça va faire mal au baseball. Je veux t'emmener sur un sondage. J'en ai parlé à Roger la semaine passée. Le baseball qui sont actuellement en train de il y a un sondage qui est sorti, la NFL est deuxième, la NFL est première, c'est-à-dire la NBA est bon deuxième, mais le baseball est troisième, hein, c'est en fait popularité. Donc ça, écoute, c'est pas vraiment surprenant. Tu sais, la longueur des matchs et ainsi de suite, ça a un lien, je pense.
Oui, puis tout ce qu'on fait depuis quelques années pour essayer d'accélérer les matchs, ben c'est justement pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle, parce que il y a une clientèle, je pense, d'un certain âge qui aime encore beaucoup le baseball, mais on dirait qu'on a perdu beaucoup de gens dans le milieu, là, de cette génération qui aujourd'hui, des gens peut-être 30-40 ans, il y en a plusieurs qui ont décroché. Fait qu'il faut trouver une façon, c'est sûr, écoute, le baseball ne rattrapera jamais la NFL. Je pense que même la NBA est assez bien ancrée, mais le baseball doit s'assurer de solidifier sa troisième place. Puis le prochain contrat de travail va peut-être être important aussi pour le baseball, pour voir vers où on s'en va, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est le seul sport des quatre gros sports qui n'a pas de plafond salarial. Alors, tu sais, on dirait que les forces des fois sont un peu déséquilibrées. Puis je ne sais pas s'il y a le sport en
vedette aussi,
que les gens s'y intéressent.
La NFL, t'as Tom Brady, t'as Aaron Rodgers, c'est des grandes vedettes. La NBA, c'est LeBron, c'est Steph Curry, et ainsi de suite. Le baseball, c'était qui?
C'est Fernando Tatis, je pense. Ouais, c'est Fernando Tatis, Juan Soto, je pense que ce sont ces jeunes-là qui prennent la place présentement, mais je pense pas que c'est une question d'image. Je pense plus que ce que tu as mentionné au départ, la longueur des matchs, puis à un moment donné, des matchs de série là, qui durent 9 manches, mais qui durent 4h30, puis quand chaque lancé, ça prend 30-40 secondes. On va faire encore beaucoup d'essais dans les mineurs cette année sur des nouveaux règlements, mais c'est pas facile de changer la tradition dans le monde du baseball.
Et la surprise, je l'avais calé, ça fait longtemps, il y a un des chums qui ne croyait pas, la MLS devant, je l'ai dit l'année passée, que d'ici 5 ans que la MLS va devancer la Ligue nationale de hockey aux États-Unis, Ben là, c'est fait. Écoute, moi, je suis vraiment pas surpris. Puis, c'est pas fini, là. Avec la Coupe du Monde qui s'en vient, moi, je pense que le soccer va devancer la Ligue nationale assez vite, là.
Oh, aucun doute là-dessus,
Les
aucun doute.
Espagnols,
Même que il y
des...
a,
Ouais.
puis tu sais, même tu parles du soccer, mais dans les, je te dirais, il y a à peu près 10 ou 15 ans, dans les codes d'écoute aux États-Unis, le hockey était quelque chose comme 30e.
Ouais,
Tu sais, il y
ouais.
avait des courses de tracteurs,
Ouais.
puis des choses comme ça qui intéressaient plus les Américains. Mais le soccer, il y a aucun doute. Puis tu sais, avec l'engouement, regarde au Canada l'engouement qu'il y a pour l'équipe canadienne avec ce qui se passe. Puis tu regardes, je pense aussi que les gens qui les gens qui arrivent au pays qui aiment le soccer, il y en a tellement depuis des années, des gens qui connaissent pas le hockey, eux arrivent avec leur amour du soccer. Certains embarquent, d'autres non. Moi, je fais partie de ceux qui, écoute, j'ai essayé le soccer, puis je suis pas capable, je serai jamais capable d'aimer ça, mais la popularité, on pourra jamais, jamais, jamais l'oublier. Puis même à un point d'année, je te dirais, puis ça existe depuis quelques années, que les parents qui prennent le hockey à cœur vont souvent inscrire leurs jeunes au soccer pour le cardio, au lieu de le faire jouer au baseball pour, tu sais, aller jouer au champ gauche puis avoir une balle par match. Ça se voit depuis un certain bout de temps. Je pense que ça a aussi fait en sorte que le soccer a gagné en popularité.
Dernier point que je veux te parler de la NFL, je veux te parler des mouvements de carrière. Ça va être très intéressant au courant de la saison. T'sais, il y a au moins le quart des équipes qui vont avoir un nouveau carrière l'an prochain. Aaron Rodgers a déjà laissé présager sur les médias sociaux qu'il pourrait quitter Green Bay. Je pense que c'est pas un secret pour les Polichinelles. Les Packers, quoi, ils ont 40. J'ai vu qu'il y avait 46 millions sur la masse salariale ou d'engager. Ils ont beaucoup, beaucoup d'engagement déjà de fait. Russell Wilson, j'ai hâte de voir. Kyle Murray, ça marque que ça. Je pense que la franchise des Cards est en chicane également. Il a enlevé tous ses liens avec les Cards d'Arizona sur les médias sociaux. Jimmy G, c'est quasiment officiel. Donc, ça va être
Oui.
intéressant à suivre dans les prochaines. Hein?
Non, ça va être très intéressant parce que, évidemment, il y a des clubs aussi, je pense entre autres aux Steelers, qui cherchent un carrière. On dit, est-ce que ça va être Mason Rudolph ou on va chercher quelqu'un? Carson Wentz devrait quitter les Colts, c'est presque sûr, à 95%, ça va être certainement un candidat qui peut être intéressant. Mais je pense que le facteur X, c'est Deshaun Watson. Parce que Deshaun Watson, ça a l'air que les Texans veulent pas changer leur prix. C'est trois choix de première ronde plus des joueurs. Mais qui veut s'aventurer là-dedans
Ça,
si tu
tu
sais même pas si le gars
échanges
va
avec
s'en aller en prison?
des choix conditionnels, simplement.
Oui, c'est probablement ce qui va arriver. Puis je pense qu'Aaron Rodgers, on verra. C'est sûr que je pense qu'on a compris que les Packers veulent tout faire pour le garder au moins une autre saison. Denver reste le candidat parfait avec l'espace qu'on a sur le plafond. On a une bonne défense. Puis il y a dont entre autres le nouveau coach Nathaniel Hackett, qui est un ancien des Packers. Fait que, disons que ça fait beaucoup de liens, mais je pense qu'il y a beaucoup de place aussi. Est-ce que Kirk Cousins va revenir avec les Vikings
Ben
du
moi,
Minnesota? Est-ce que Winston va revenir avec les Saints aussi? Écoute, il y en a des points d'interrogation, c'est incroyable.
Moi, j'ai fait une entrevue avec un journaliste du Sports Illustrated qui suit les Steelers de Pittsburgh. Je sais pas si t'en ai parlé, François, dehors des ondes.
Non.
Et lui, quand Big Ben a pris sa retraite, moi, je voyais Jimmy G. Avec Kelly Pickett pour succéder à Big Ben à Pittsburgh. Puis lui, ce qu'on entend parler, c'est que Kirk Cousins pourrait se retrouver à Pittsburgh, selon lui. Avec un choix. Parce que. Ça va être intéressant à suivre. François, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. On va se reparler dans 2 semaines.
Et en espérant que quand on se reparle, les gants d'entraînement vont être en branle.
Oui, effectivement. François Paquette qui nous parle évidemment de l'actualité.